Analyse du poème de Sielingun, Montée à la tour du lac. Ce poème est une merveille. Il m'a fallu plus d'un mois pour le traduire. Mais quel plaisir de voyager avec Sielingun dans la Chine du 5e siècle, de parcourir avec lui les paysages grandioses du Zhejiang. Tout imprégné de taoïsme, son œuvre eût certainement été tout autre sans la grande jacquerie de 398. Le taoïsme n'étant plus en odeur de sainteté, il va alors réagir en fondant l'école paysagiste, Shan Shui, littéralement « montagnes et eaux ». Il eut toutefois un illustre prédécesseur, en la personne du peintre Ku Kai-je, 344-406 environ, qui va expliquer dans le roi Yun Tai Shan Ti comment transposer les valeurs du Tao dans un paysage pictural. Sielingun contenait le Tao, mais il sut se faire discret. Tout est contenu, mais rien n'est explicité. Dès le premier vers, le dragon à cornes resplendit dans les abysses, il dit énormément de choses. Tout d'abord, il se rapporte directement au premier hexagramme du I Ching. Uqiao est le dragon de la création, les cornes symbolisant la création. Dans le premier hexagramme, 9 au commencement signifie « dragon caché n'agit pas ». Appliqué aux situations humaines, cela signifie qu'un homme remarquable est encore inconnu. Il se tient prêt, mais ne bouge pas. Sielingun a donc parfaitement conscience de son génie, mais il se trouve dans la position du dragon caché. Le poème se referme d'ailleurs sur l'hexagramme 1 du I Ching, où il dit « Trouver la voie n'est pas réservée aux anciens. Cet état, je le sais, est possible aujourd'hui. » Wu Men, que j'ai traduit par « cet état », signifie littéralement « sans anxiété » et est toujours employé pour caractériser l'état du sage. L'expression « Wu Men » provient des Yao Tzu de l'hexagramme 1. Les Yao Tzu sont les courtes réflexions qui accompagnent chaque ligne des hexagrammes. Au quatrième vers, il aurait fallu traduire « Assis sur la berge, je me fais humble devant l'hôte des abysses ». Mais un pentasyllabe chinois contient souvent bien plus que ne peut contenir un alexandrin. J'ai donc omis de traduire Sichuan. Dans le deuxième quatrain, il se désole que son rêve de gloire et d'une belle carrière se termine par la relégation. Mais plus encore, il se moque de lui-même, de cette gloriole à laquelle il avait aspiré. Maintenant, il est malade et alité, et il n'a même plus assez de force pour travailler la terre. On est en automne et il regarde les arbres dépouillés. Troisième quatrain. Les prémices du printemps. Les vers de Sielingun suivent une progression admirable. La sensation, l'émotion et enfin la réflexion. Or, pour la première fois, l'ordre est inversé. Il commence par tendre l'oreille. Ching Er. Écoute, Ling, et perçoit le bruit des vagues. Paul Han, je l'ai dit, tout est merveille dans ce poème, et j'ai presque honte d'avoir espéré en rendre les beautés. Quatrain suivant. Magnifique description du printemps. J'ai traduit Xin Yang Kai Koyin par le soleil débusque les ombres hivernales. Littéralement, le soleil printanier chasse les ombres hivernales. Mais pour une oreille chinoise, c'est aussi le yang qui succède au yin. La force du yang triomphe en hiver et celle du yin en été. Chi chi shang pin ke, chi chi gan shu yin sont peut-être les deux vers que je préfère, mais ils sont absolument intraduisibles. Chi chi évoque l'abondance du printemps qui s'éveille, mais tout chinois cultivé reconnaîtra immédiatement un poème célèbre du Shi Ting, où le cœur de la jeune fille est triste, parce que le temps est venu pour elle de se marier et de quitter pour toujours sa demeure. Le presque homophone Chi Chi évoque la luxuriance du printemps qui renaît, tout en évoquant pour une oreille avisée lui aussi un autre poème célèbre, une élégie de Chu, où le fils du roi en exil erre dans la nature printanière. Fils de roi, tu divagues çà et là sans espoir de retour. Les plantes printanières croissent, touffues et luxuriantes. Élégie de Chu, traduite par Rémi Mathieu, Gallimard 2004. Ces deux vers sont une célébration du printemps teintée de mélancolie et de nostalgie. Dernier quatrain. Retiré du monde, les jours coulent paisiblement. Il est loin des tumultes de la capitale. Mais, exilé à Yongtia, il est également loin de chez lui et de ses amis. Aussi lui est-il difficile d'être heureux. Le poème se referme magistralement sur une allusion au I Ching, qui est aussi un témoignage de foi. Comme le sage Jitse, qui simula la folie après que le roi Tishin eut fait arracher le cœur de Pican, Xielingyun fut condamné à n'être que l'ombre de lui-même. Il est fort probable que Xielingyun se soit reconnu à travers la grande figure de Jitse qui court tout au long des Yaozi. Jitse est l'auteur reconnu du Hongfan, mais on est en droit de se demander s'il n'est pas aussi le grand ordonnateur du I Ching.